Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous. Dans la précédente émission, nous avons vu que la fin du chapitre 10 de Saint Jean renvoie au chapitre 1er. Et tout se passe comme si une boucle était bouclée. Je relis le chapitre 10, les versets 40, 41 et 42. Jésus s'en retourna au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser. Et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui et il disait « Jean, certes, n'a opéré aucun signe, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. » Et là, ils furent nombreux à croire en lui. Donc, on a un peu l'impression que la boucle est bouclée. Mais je pense que c'est beaucoup plus qu'un effet de style. Au chapitre 11, en effet, Jésus va affronter la mort de Lazare avant d'entrer dans sa passion. Nous sommes donc à un moment décisif. Et on a l'impression que du chapitre 1 au chapitre 10, Jésus fait une sorte de pèlerinage. Et je pense que, pour en avoir parlé avec le Père José en préparant cette émission, je crois qu'avant d'affronter la mort, Jésus a profondément assumé notre humanité, nos contradictions, nos doutes, et nos désirs. Et à ce titre-là, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au chapitre 4 est sans doute emblématique. Il rencontre en effet une femme éparpillée dans son désir et il contribue à la rassembler. Une femme éparpillée dans son désir. Et Père José, vous écrivez que Jésus, au fond, devait traverser la Samarie et devait s'arrêter au puits de Jacob. Et quand il s'arrête au puits de Jacob, il est harassé. Est-ce donc ici le signe de ce qui se passe entre le 1er et le 10e chapitre, ce que j'appellerais un pèlerinage en humanité?
Une récapitulation. Il y a comme une récapitulation de toute l'histoire spirituelle qui le précède et qui nous fait remonter jusqu'aux origines du projet de Dieu. Et il nous faut remonter vraiment jusqu'au point de départ de la grande aventure de l'humanité qui se concrétise là-bas. Je crois que la première étape qui nous est sensible, il y a eu bien sûr la préhistoire, les préhistoires, mais l'histoire sainte, comme au sens technique du mot histoire, débute vraiment à Abraham. Et Abraham est donc un Mésopotamien du 19e siècle avant le Christ, plongé dans une civilisation prospère, puissante. La civilisation sumérienne a été la première civilisation du monde, je crois. Et l'événement qui nous surprend, c'est cet appel, ce besoin, ce réflexe profond d'Abraham de quitter cette civilisation à la fois oppressante et rassurante pour s'aventurer dans une aventure, je répète le mot, tout à fait incroyable, l'appel du désert.
Autrement dit, le fait de quitter, le fait de vivre une rupture est fondamental.
Pour moi, c'est le point de départ de tout. J'appellerais ça le grand départ primordial qui reste inscrit au fond de tout cœur humain. il y a, dans, je crois, dans le cœur humain, cet appel peut-être confus, plus ou moins conscient, vers un dépassement, un au-delà, une libération.
Vous êtes en train vraiment de nous parler de nous-mêmes, Père José.
De nous. L'appel abrahamique résonne au fond de tout cœur humain, conscient ou inconscient. Et là, je vous ai parlé de ce livre très intéressant d'un prêtre indien, Raymond Panikkar, qui est à la fois théologien et anthropologue, et qui déchiffre dans le cœur humain ce grand appel vers le retour ou le départ vers l'intériorité la plus profonde dans le dépouillement de tout le reste. Il appelle ça l'archétype monastique, et il me semble que son premier modèle, nous le trouvons dans Abraham. Je voudrais aussi signaler que ce grand départ, il est comme poussé dans le dos. C'est derrière lui qu'Abraham est poussé vers l'avant. Un avant mystérieux, inconnu, mais dans lequel il se risque. Et nous retrouvons cette expérience tout au long de l'Ancien Testament. Je pense au prophète Élie, par exemple. Et puis, beaucoup plus près de nous, des personnages qui reproduisent le même geste, comme Charles de Foucault, Montchanin, des grands ermites de notre temps. C'est la même démarche, le grand départ primordial. Voilà la première étape pour moi.
Le grand départ un petit peu vers ce qui nous déborde, en quelque sorte.
Tout à fait. Parce que la phrase de l'Écriture, c'est l'appel qu'Abraham entend résonner au fond de lui-même, c'est « quitte tout ce que tu... » Non pas seulement tout ce que tu as, mais tout ce que tu sais. Déracine-toi de toutes tes frontières, de toutes tes assurances, pour, et puis, le pays que je te montrerai, et dont il ne connaît pas le terme.
C'est sur ces mots que nous allons faire une pause musicale, Père José, avec l'introduction du concerto en la mineur pour violoncelle et orchestre de Carl-Philippe Emmanuel Bach. Après Carl-Philippe Emmanuel Bach, sur RCF, avec le Père José, nous revenons à la scène de la Samaritaine. Jésus devait s'arrêter là-bas en Samarie, il devait traverser la Samarie, il est près du puits de Jacob, harassé comme s'il récapitulait toute l'expérience des croyants. Première étape, nous avons parlé il y a quelques minutes d'Abraham, qui a quitté, qui a vécu une rupture, un départ, un déracinement. Puis il y a les grands patriarches, Isaac et Jacob. Et je sais que vous aimez bien Jacob, Père José. Jacob de rusé, et Jacob aussi qui combat.
Sûrement. Donc il y a cette double face dans Jacob. c'est d'abord le roublard, l'usurpateur presque, dont les débuts sont peu glorieux, mais qui est changé par un retour dans son pays natal, qu'il a fui, redoutant la colère des Ahus. Et il décide de retourner là-bas et de rencontrer ce redoutable aîné. Et pour ça, il doit passer une frontière. Il y a donc un passage, une traversée, le dépassement d'une frontière, d'un gué. L'image est belle. Un gué obscur qu'il tente de franchir la nuit. Il fait d'abord passer sa famille et ses troupeaux de l'autre côté, et lui reste seul au moment du passage, hésitant, troublé, et puis se risque dans le gué, dans une démarche confuse et tumultueuse, contredite, contrariée par une force obscure qui s'oppose à lui, et dont il ne connaît pas le nom, une force indéchiffrable à laquelle il va se mesurer toute une nuit. Et pendant cette nuit s'opère en Jacob quelque chose, une transformation. Il lutte, il résiste, et au lever du soleil, il réussit à franchir le gué et se retrouve donc de l'autre côté, plus ou moins victorieux et surtout transformé intérieurement. Il est renommé, réidentifié et va porter le nom qui sera celui de son peuple Israël, qui veut dire « tu as tenu bon face à Dieu ». Il a résisté et tenu bon face à un Dieu indéchiffrable.
Jusqu'au bout de la nuit, il s'est battu jusqu'au bout de la nuit, c'est une belle image.
Toute la nuit, c'est au lever du soleil qu'il est délivré, mais marqué par cette lutte, blessé, et il restera blessé toute sa vie, déboîté. Jacob restera boiteux toute sa vie. Et par là, à la fois, il devient le patronyme du nouveau peuple, dont il est le fondateur, mais il est aussi le patron, si on peut dire, des blessés de l'esprit, de ceux qui, comme lui, ont connu cette lutte face à une force obscure, face à lui-même. C'est le premier des grands blessés de l'esprit, et je trouve c'est un mot que j'aime bien.
Et donc il affronte véritablement l'énigme humaine.
Il affronte l'énigme et de l'homme et de Dieu.
Oui, parce que l'adversaire, on ne sait pas très bien qui il est.
Non.
On dit c'est un ange, c'est
oui.
Dieu, c'est
oui.
un homme, mais ça reste en fait un adversaire très mystérieux.
Ah, tout à fait. Dont Jacob cherche à connaître le nom qui lui est refusé, mais au contraire, la question lui est retournée en disant « Mais moi, je vais te dire qui tu es. » Et Jacob est là, renommé, réidentifié, il porte un nom nouveau.
Et au fond, ici, dans cette deuxième étape, Jacob rejoint un petit peu tous ces humains qui
oui.
profondément sont engagés dans une lutte avec l'énigme qu'est n'importe quel homme pour lui-même.
Cette scène reste le paradigme des combats mystiques. Tous les grands mystiques retournent vers cette scène mystérieuse. À la fois les grands mystiques et les grands blessés. Et il y a quelques personnages qui me sont chers, vous le savez. C'est Jérémie, bien sûr. Jérémie, un des grands blessés de l'esprit. Et puis, plus près de nous, ce personnage de Dostoïevski, qui est d'ailleurs presque une autobiographie, l'idiot, le prince Mouchkine, épileptique, et en même temps révélateur de son temps.
Ça, c'est la deuxième étape, et donc oui. C'est une étape profonde que nous vivons aussi. D'ailleurs.
Et il est évident que le nom de la COP devait réveiller en Jésus ce souvenir. Et s'il s'arrête au bord du puits de Jacob, ça n'est pas sans intention. Je crois que ce récit doit réveiller en nous notre solidarité avec tous les blessés de l'esprit, et il y en a. Il y en a beaucoup. Et reconnaître en nous notre propre blessure, qui devient féconde par le combat.
Oui, la faille est en fait une semence.
Tout à fait. C'est une blessure féconde.
Et alors, il y a la troisième étape que le peuple d'Israël va vivre. La troisième étape, la troisième épreuve, c'est l'exil en Égypte, c'est la servitude, et puis c'est évidemment la grande figure de Moïse. C'est donc ça. Il y a cette troisième étape qui est vraiment l'arrachement, l'exil et la servitude.
De nouveau un dépassement, oui, un dépassement et un arrachement. C'est l'époque où l'hégémonie des civilisations est égyptienne. Hein. C'est Toutmès, c'est Menephtah, sont les grands pharaons de Thèbes. Mais Moïse, d'ailleurs, est élevé comme un Égyptien. Il est l'enfant perdu dans les eaux, recueilli par une princesse égyptienne, et il reçoit une éducation d'Égyptien. Akhenaton est postérieur à lui, mais enfin, il y a une parenté entre la spiritualité d'Akhenaton et celle des premiers psaumes, ça c'est certain. Pendant cette étape égyptienne, il ne faut pas oublier que Moïse, à la suite d'un premier engagement malheureux ou maladroit, a été obligé de fuir l'Égypte et de se réfugier en Arabie. Et l'étape arabe de Moïse est très importante. Il se réfugie chez un prêtre de Moab, dont il devient le gendre. Et Moïse s'initie à la spiritualité arabe à cette époque. C'est l'époque, d'ailleurs, du buisson ardent, ce moment où Moïse, berger de son beau-père, est saisi par cette expérience étrange d'un buisson qui s'enflamme dans le désert sans se consumer et dont il ne peut pas faire le tour. Il est arrêté dans son cheminement. On lui dit « enlève tes sandales et n'essaye pas de faire le tour ». Et où il lui est annoncé sa mission.
Décidément, ici, on touche encore une fois l'insaisissable.
L'insaisissable, oui. Bien sûr. Depuis Jacob, d'ailleurs, la quête de Dieu est marquée par ce mystère de l'insaisissable, l'incontournable, l'ineffable et l'innommable. On ne peut pas prononcer le nom de Dieu.
On dit souvent que la grâce, c'est ce qui nous déborde. Et ici aussi, il y a quelque chose qui nous déborde, qui va au-delà de notre entendement, au-delà de notre sensibilité, véritablement. Et la tentation, évidemment, c'est d'enfermer Dieu, enfermer l'insaisissable en essayant de le saisir, justement.
Oui, tout à fait. C'est la grande tentation. Essayer de maîtriser l'énigme de Dieu. Or, nous avons à nous laisser dessaisir, c'est le mot que vous employez souvent. Et Moïse accepte d'être débordé par ce mystère. Et c'est à partir de cette expérience qu'il revient en Égypte et qu'il ose s'engager dans un grand mouvement politique de libération.
Donc cette expérience mystique en fait un homme d'action.
Tout à fait. Les deux sont liés.
Et tous les témoignages concordent. Moïse était un meneur d'hommes absolument exceptionnel.
Tout à fait. Tout à fait. C'est le fondateur du peuple. Hein. Oui. Abraham est la grande référence, mais également insaisissable. Mais Moïse est vraiment le fondateur du peuple.
Et donc ici, il s'agit d'un passage, c'est le fameux passage de la mer Rouge, évidemment, oui. D'un passage et donc d'une libération qui n'est pas une libération individuelle, qui est une libération collective.
Oui, le collectif apparaît ici. Le peuple devient un peuple ici. Et alors, après ce passage, commence la grande errance de l'Exode. Donc ces 40 années symboliques d'affrontement du désert, l'épreuve du désert, les tentations qui se multiplient, les tentations de retour en arrière, alors que le peuple est toujours poussé de l'avant. Depuis Abraham, nous sommes poussés vers l'avant, jamais de retour en arrière.
Ces errances, ces tentations, tout cela, Jésus les a connues aussi, finalement. Le désert, les tentations, elles ne sont pas dans Saint Jean, mais elles sont dans les évangiles synoptiques. Mais il y a manifestement Jésus qui traverse lui aussi tout cela.
Jésus a traversé toute l'épreuve du désert, à plusieurs reprises d'ailleurs. Mais il y retourne volontiers. Lorsqu'il se recherche lui-même, c'est au désert qu'il se retrouve.
Et qu'il retrouve alors, nous l'avons souligné souvent, cette mystérieuse intimité, cette profonde intimité avec son Père, qui est vraiment le fondement de sa mission et qui est la force que Jésus va mettre en œuvre pour continuer malgré tout.
C'est dans le désert qu'il se ressource, et qu'il se ressource dans cette intimité avec le Père, avec l'autre.
Et en même temps, il est avec l'autre et il va demander à l'autre, cette femme qui passe, il va demander à boire. Et donc il y a ce poids qu'il porte, ce poids qu'il traverse, et en même temps, eh bien, il demande de l'aide, donne-moi à boire, tout simplement.
Jésus reste profondément humain dans sa fragilité. Il s'avoue, se reconnaît fragile, harassé.
Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter aujourd'hui, Père José, parce que le temps est déjà compté. Oui. Mais voilà, Jésus, bel et bien, près du puits de Jacob, vraiment récapitule toute l'histoire de la foi, du départ, de la rupture.
Du départ, de la rupture, du cheminement et de la soif.
Et donc du désir.
Et du désir, bien sûr. Le mot soif est lié à celui de désir.
Et c'est en cela justement que cet arrêt sur la Samaritaine est intéressant, parce qu'on a dit que l'évangile de Jean était bel et bien l'évangile du désir. Jésus, maître du désir.
Tout à fait.
Voilà, nous continuerons la fois prochaine. Père José a récapitulé cette histoire que Jésus affronte, porte lui-même pour notre vie.
Tout à fait. Et je crois que on va essayer de suivre le cheminement de cette quête de Dieu et de soi qui va s'affiner tout au long de l'histoire à venir.
C'est quelque chose que vous avez beaucoup souligné, Père José, déjà dans nos commentaires. C'est l'affinement, le progrès. C'est vrai également quand, dans notre lecture que je fais par ailleurs de l'évangile de Marc, on voit bien que les disciples ne comprennent pas.
Le cheminement est fondamental dans la lecture de l'évangile.
La révélation se fait par couches successives, en quelque sorte.
Et nous avons à cheminer.
Voilà.
Heureusement, quelqu'un devant nous est le chemin, la vérité et la vie.
Merci Père José. Et nous vous laissons, chers auditeurs, avec le concerto en la mineur pour violoncelle et orchestre de Carl Philipp Emanuel Bach. Au revoir, à bientôt.